Alors, cela fait une vingtaine d'années que je suis pasteur et je ne me lasse pas de voir la trace de Dieu dans la vie de ceux qui veulent bien m'en parler. Dans notre Église, nous ne sommes pas très doués pour les témoignages. Et pourtant, c'est grâce aux témoignages qui se sont transmis depuis 2000 ans que l'Église est née et qu'elle continue à transmettre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est depuis la résurrection de Jésus que l'humanité peut entendre la bonne nouvelle d'un Dieu d'amour qui nous accompagne tous les jours. Gustave, tu as poussé la porte du temple en septembre dernier et tu nous diras tout à l'heure pourquoi tu es venu. Je t'ai accompagné dans tes questions que nous n'avons largement pas épuisées et tu as voulu recevoir le baptême. Tu es arrivé avec une question sur les traductions de la Bible. Au départ, c'est ça. Je vais voir le pasteur pour qu'il me dise quelle Bible, finalement, c'est bien de lire, dans quelle traduction. Mais tu avais déjà bien débroussaillé le terrain. Et puis ensuite, plusieurs fois, eh bien, j'ai dû sortir mon Nouveau Testament en grec, mon Ancien Testament en hébreu, parce qu'il fallait trouver des réponses à tes questions. Mais tu étais également soucieux de l'aide aux autres, en me demandant des associations, etc., comme une cohérence à ta foi. Tu as senti très vite cette cohérence. Alors, inutile de vous dire que ça a été un défi de choisir trois textes pour aujourd'hui, parce que tellement de textes te passionnent. Mais il y en a quand même eu trois. Le psaume 8 t'a permis de découvrir l'attention que Dieu porte à l'être humain. Qu'est donc l'être humain pour que tu penses à lui ? Ce psaume de l'Ancien Testament fait partie des textes qui parlent d'un Dieu proche, même dans l'Ancien Testament dont parfois on n'a pas une très très bonne image. Oui, Dieu s'occupe de l'être humain et pas forcément, pas seulement de phénomènes plus grandioses comme ce que la nature peut déployer, par exemple dans la violence d'une tempête ou l'irruption d'un volcan. Un certain nombre de personnes croient en Dieu par la nature. Elle est en effet le reflet de sa création, mais Dieu n'est pas à confondre avec sa création. L'être humain est la création de Dieu. Et Dieu prend l'être humain comme vis-à-vis de son amour. L'humain ne possède pas la terre, il en est simplement le gardien, le gérant. Et Dieu ne laisse pas l'être humain tout seul. Il s'en soucie, nous dit le psaume. Il prend garde à lui, il s'y intéresse. Et puis, bien sûr, grâce à Jésus-Christ, on en a eu la confirmation, Jésus-Christ qui s'est fait proche de nous. Et quand on lit un petit peu les évangiles et l'histoire de Jésus, on voit que son attitude d'accueil envers ses disciples, envers les pharisiens, les aveugles, les malades, envers les étrangers, envers les non-croyants, eh bien toute son attitude dit comment Dieu nous accueille et comment Dieu nous aime. Oui, Jésus vient révéler un Dieu d'amour qui nous libère du mal par les guérisons, par le pardon, par la juste distance envers les commandements. Un Dieu d'amour qui nous invite à œuvrer pour cette libération en nous et autour de nous. Certains commandements sont cités par Jésus dans le deuxième texte, celui de l'évangile de Matthieu que nous avons entendu. Cet auteur a choisi de commencer son évangile après les récits de naissance, le baptême de Jésus, etc. Donc le début vraiment, c'est un long discours de Jésus qu'on appelle le sermon sur la montagne. Chaque évangile a une construction littéraire différente, en lien avec la communauté avec laquelle il s'adresse. Et pour Matthieu, eh bien, cette communauté est composée plutôt de ce qu'on appelle les judéo-chrétiens, c'est-à-dire des personnes qui étaient d'origine juive, comme tous les disciples, ils étaient juifs. Et ce discours de Jésus commence avec les béatitudes, des paroles qui proclament le bonheur à ceux et celles qui vivent en s'appuyant sur Dieu pour trouver la paix, la consolation, la richesse, la douceur, la bonté, la patience envers l'injustice. Et le passage des deux maisons arrive après trois chapitres de recommandations qui commence la plupart du temps par vous avez, donc c'est les paroles de Jésus, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Jésus ne vient pas supprimer la loi, mais il vient lui restaurer son intention primordiale, c'est-à-dire le droit et la miséricorde. La continuité avec l'Ancien Testament n'est plus la loi, mais l'amour du prochain. Et l'exigence de son amour va conduire Jésus à transgresser des commandements. Comme par exemple le jour dédié à Dieu, le sabbat, un jour où on était censé ne rien faire. Mais Jésus va faire des guérisons ce jour-là. Et quand Jésus dit « Moi, je vous dis », il nous montre que son autorité dépasse celle de Moïse. La loi d'amour, pourquoi ? Ben parce que Jésus vient la vivre et l'incarner. Il ne vient pas juste la dire. C'est pour cela qu'elle dépasse la morale. Par exemple, aimer ses ennemis est en dehors de toute morale. Jésus en est mort. Mais Dieu l'a ressuscité pour montrer à quel point son amour donne la vie sans fin. Alors Gustave, tu m'as dit cette parole, cette évidence pour toi, il y a dans ces chapitres des interdictions libératrices. En effet, on n'est plus assigné à obéir aveuglément à des commandements, mais on est amené à comprendre, à réfléchir dans quoi nous sommes enfermés. Et Jésus vient nous en libérer. Par exemple, Jésus recommande la discrétion pour pratiquer sa religion. Alors aujourd'hui, dans notre pays laïque, c'est un peu évident, mais à l'époque, ça ne l'était pas apparemment. Mais en tout cas, c'est une recommandation qui nous aide à nous libérer du regard des autres. Quand Jésus parle de ne pas adorer Dieu et l'argent, on comprend à quel point l'argent peut devenir un but et non plus un moyen qui nous enferme. Quand il parle de la confiance en Dieu, il met en lumière nos peurs de manquer et nos soucis qui nous étouffent bien souvent. Quand il parle de l'amour des ennemis, il révèle que la haine ou le ressentiment nous maintiennent rattachés à nos ennemis. Quand Jésus donne tous ces commandements-là, eh bien, ce n'est plus une morale qui enferme, mais un cadre qui libère. Ça n'est pas très facile, parce que des fois, on a l'impression que c'est une loi qui est encore plus restrictive, mais non. Et comme lui l'a vécu, eh bien, nous aussi, c'est dans notre incarnation que nous pouvons y arriver. À la fin du discours arrive l'histoire que nous avons entendue, celle des deux maisons. L'une est construite sur le roc et tient bon face aux éléments. L'autre est construite sur du sable et s'écroule dès que le vent souffle et la pluie arrive. Ça fait quand même beaucoup penser à l'histoire des trois petits cochons. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette histoire des trois petits cochons. Alors évidemment, tout le monde se dit, bien sûr, il faut construire sur le roc. Oui, mais c'est quoi le roc ? Certaines personnes penseront peut-être que c'est leur travail, leur famille, leurs amis, des réserves d'argent, le dernier portable, une bonne santé. Ces choses-là sont-elles durables ? Quand je regarde des personnes dans la rue, je constate quand même qu'elles ont toutes ou presque un cordon ombilical pour vivre. Vous savez ce que c'est le cordon ombilical ? C'est le téléphone portable. Eh oui, on le lit en marchant, pour rester connecté au monde, à ses amis, à ses relations, à ses mails, à ses vidéos, aux informations, que sais-je. Est-ce que c'est une addiction ? Quelle peur cela cache ? Est-ce que c'est la peur d'être seul, seul avec soi-même ? En tout cas, personnellement, moi je peux dire que mon roc, ce n'est pas le téléphone portable. Relisons un petit peu ce texte, qu'est-ce que Jésus en dit ? Jésus dit, bâtir sa maison sur le roc, c'est écouter ses paroles et les mettre en pratique. Pour le dire autrement, c'est rechercher une vie en cohérence avec notre nature humaine. La personne qui bâtit sur le sable peut entendre aussi les paroles, mais sans les vivre, sans les expérimenter. Bâtir sa maison sur le roc, c'est savoir résister quand viennent les épreuves, c'est résister au découragement, au désespoir, à l'envie de se venger, résister aux forces du mal qui sont en nous et autour de nous. C'est apprendre un chemin d'humanité comme le pardon qui n'est pas naturel. C'est aussi prendre conscience de ce qui peut mettre ma maison en danger, des relations dont on doit se protéger à cause des manipulations, d'influences néfastes ou d'abus. Ce qui met ma maison en danger, c'est ce qui va m'empêcher de m'aimer moi-même, peut-être certaines loyautés, ce qui va m'empêcher d'aimer les autres, ce qui va m'empêcher d'aimer Dieu et de m'éloigner de lui. Quel est-il ce roc? Alors il faut chercher dans la Bible. Et on va au psaume 18. Et le psaume 18, on peut lire « Le Seigneur est mon roc, ma forteresse et mon libérateur. » Le Seigneur est mon roc. C'est quand même très étonnant, et ça depuis que je suis croyante, je le pense, c'est quand même très étonnant que ce Dieu qu'on ne voit pas, que Jésus qu'on ne voit pas, soit un roc. Ce qui est quand même quelque chose de très matériel, quelque chose où on peut vraiment s'appuyer. En tout cas, c'est une expérience. C'est une expérience que Jésus, que Dieu, eh bien, est avec nous, nous parle, nous aime. Et cela se reçoit comme un cadeau. Nous le verrons tout à l'heure avec le baptême. Bâtir sur le roc, c'est mettre en pratique les paroles de Jésus avec l'aide de Dieu. Nous ne sommes pas seuls pour cela. Et celui qui ne me laisse jamais seul est disponible à tout moment, par la prière en particulier. Encore faut-il que j'accepte de reconnaître que ma vie intérieure a besoin d'être nourrie dans le silence du cœur. Par la prière, je peux découvrir ce Dieu qui ne me laisse pas seul et qui me répond. Nous avons un Dieu de parole. En nous apprenant à prier, donc dans les chapitres juste avant, il y a la prière du Notre Père que Jésus donne à ses disciples. Jésus nous introduit dans une nouvelle identité, celle d'enfant de Dieu. Si je dis « Notre Père », eh bien je me mets en effet à la place d'enfant. Et ce Dieu que Jésus vient révéler est un Père patient, oh combien patient, et pédagogue. Et s'il est un Père, nous sommes ses enfants. C'est ce que déclare l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates. « Vous êtes par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. » Et plus loin, il montre que cette identité vient au-dessus de toutes les autres. Il n'y a plus ni juif ni païen, il n'y a plus ni esclave ni citoyen libre, il n'y a plus ni homme ni femme. En effet, nous vous êtes tous un, unis à Jésus-Christ. Comme tu l'as dit, Gustave, ton identité est secondaire. Toute identité est secondaire à l'identité d'être chrétien. Et moi, j'irai même plus loin, je dirai même à toute identité divine. Parce que nous avons une identité divine. Si je considère qu'il n'y a qu'un seul Dieu, les religions ont chacune leur chemin pour le reconnaître. Mon identité divine, c'est savoir que je suis aimée de Dieu, que je peux vivre en relation avec ce Père. Mon identité divine, c'est aussi d'avoir Jésus comme frère et de recevoir l'Esprit de vie, qu'on appelle aussi l'Esprit Saint. Mon identité divine m'aide à assumer mon identité terrestre. Ça n'est pas une fuite, c'est vraiment une incarnation. Car c'est ainsi que Dieu m'appelle à le servir auprès de mes frères et de mes sœurs. Je l'assume sans m'en glorifier, mais sans non plus la cacher. Et c'est d'autant plus vrai dans notre société laïque. Répondez de votre espérance avec douceur. Alors Gustave, ton baptême est un début. Le début d'une aventure qui peut t'emmener sur des chemins pas toujours confortables, souvent surprenants. Et un jour tu m'as dit, je savais où était la bouée, mais pas le port. Alors maintenant, tu as un port, mais on sait bien que les bateaux, ils ne sont pas faits pour rester dans le port. Tu sais maintenant que tu fais partie de ceux et celles à qui Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde ». Alors je te souhaite de quitter ton port et de rayonner cette lumière. Amen.